on va prendre la page 230. On va continuer où on s'est arrêté la semaine dernière. Donc on est dans la lettre 10. On va faire la deuxième partie de la lettre 10. Et je pense que Bezrat Hashem, on va la terminer. Donc le thème du cours d'aujourd'hui, c'est jusqu'où doit-on aller dans la Tzedaka. D'accord ? Ça, c'est la question qu'on se pose dans le cours. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière ? La semaine dernière, on a expliqué que il y a plusieurs catégories de Hesed. D'accord ? Pour expliquer, ça veut dire quoi qu'il y a plusieurs catégories de chesed, on a commencé à parler des mitzvot. La principale partie du cours de la semaine dernière, c'était sur les mitzvot. On a expliqué que, à Kadosh Baruch Hu, la manière comme il nous a donné les mitzvot, à la base, c'est du chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la bonté de la part d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on soit. Il veut qu'on puisse communiquer avec lui, donc il nous a donné le moyen de communiquer avec lui. Donc c'est un chesed comme il n'y a pas deux d'Akadosh Baruch Hu. De la part d'Akadosh Baruch Hu, on peut attendre que du chesed. Mais on a expliqué que comme Akadosh Baruch Hu sait que s'il va nous laisser communiquer avec lui comme on veut, comme on l'entend et comme on le sent, les hommes ne pourront pas communiquer avec Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Et du coup, en voulant communiquer avec Dieu, on va faire des catastrophes. C'est le problème comme on a, comme on voit maintenant chez les réformés, les libéraux. C'est les gens à la base, c'est parti d'une bonne intention. Ils voulaient communiquer avec Dieu à leur manière. Donc on a expliqué que c'est pour ça, oui. Parce qu'ils te disent, on veut communiquer avec Dieu. D'où est venu le problème ? Le problème est venu parce que on veut communiquer avec Dieu. À la base, communiquer avec Dieu, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que si c'est pas fait dans des règles, vous rappelez ce qu'on expliquait la semaine dernière ? Si c'est pas fait dans des règles, si c'est pas fait avec une structure, voilà, la structure, c'est le terme qu'on a donné la semaine dernière. Du coup, ce que tu penses être un chesed va se retourner contre la personne. Et la personne, au lieu de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. On avait donné plusieurs exemples la semaine dernière. Je pense que le meilleur exemple, c'était l'exemple de l'enfant. Que tu as, par exemple, un parent qui a envie de gâter son enfant. Donc ça part du chesed. Il veut le gâter. Mais s'il ne le fait pas avec une structure, qu'est-ce qui va se passer ? En le gâtant, qui est à la base du chesed, ce chesed risque de devenir contre l'enfant. Et ça risque de pourrir l'enfant, au contraire. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il va faire le parent ? Il va mettre ce chesed dans une structure. C'est quoi la structure ? Il va lui dire, par exemple, je vais te donner le cadeau, si tu vas bien te comporter. Ça, c'est uniquement une structure qu'on met au chesed, pour permettre au chesed d'être réellement du chesed et de ne pas se retourner, chas v'shalom, contre l'enfant. On a expliqué que c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh, tu t'es retrouvé où tu en es ? Donc on a expliqué que c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les mitzvot. Les mitzvot, c'est du chesed. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il sait que si on va prendre les mitzvot comme ça et que si chacun va dire je fais la mitzvah comme j'ai envie et je veux communiquer avec Dieu comme j'ai envie, qu'est-ce qui va se passer malheureusement ? Ce qui va se passer, c'est que du coup on va plus communiquer avec Dieu, au contraire on va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné une structure. C'est quoi la structure ? C'est l'aspect rigueur qu'il y a dans les mitzvot. À la base, les mitzvot, c'est du chesed, c'est pour notre bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il a rajouté un aspect de rigueur dans les mitzvot, de structure dans les mitzvot pour notre bien. C'est quoi la structure qu'il y a dans les mitzvot ? On a donné plein d'exemples la semaine dernière. On a dit par exemple, on voit que Akadosh Baruch Hu nous a dit que pour que les tefilines soient cachères, c'est quoi le chiour minimal des tefilines, vous vous rappelez ? D'accord ? Deux doigts sur deux doigts. C'est la taille minimale des tefilines. D'accord ? Donc c'est ça. D'accord ? Voilà, deux doigts sur deux doigts. On a dit, pour que des tefilines soient cachères, c'est quoi ? D'accord ? On a donné la mesure de 12 pouces, etc. On a dit les tefilines doivent être carrées et doivent être noires. D'accord ? Le loulav, on a donné une mesure. Les corbanotes, ça doit être un animal spécifique où tu peux le manger dans un certain endroit, pour certaines personnes, pendant une certaine durée. Chaque sacrifice a ses durées. Ça veut dire qu'il y a une structure. Chaque mitzvah a sa structure. Et dès que tu dépasses la structure, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit tu ne fais plus la mitzvah. Pourquoi ? Donc, c'est vrai que quand on regarde les choses d'une manière comme ça, on peut avoir l'impression qu'il y a de la rigueur. Et que, a priori, la religion ne veut pas forcément notre bien. C'est là pour étouffer les gens. Non, mais c'est vrai. Une personne qui voit ça de l'extérieur peut dire la religion, ça vous étouffe. Un jour par semaine, vous ne travaillez pas et on vous étouffe.
Beaucoup de contraintes. D'accord ?
Beaucoup de contraintes. Ça a l'air d'être beaucoup de gvoura. Mais en vérité, nous, on sait la vérité. On sait que c'est du chesed, seulement c'est du chesed qu'on a dû mettre dans une structure. Donc il ne faut pas confondre la structure avec la raison pour laquelle on le fait. Des fois, ça peut être le contraire. Des fois, on peut te faire croire qu'on te donne, mais en vérité, ce n'est pas pour ton bien. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est pour notre bien, c'est du chesed, mais du chesed qui a été obligé d'être avec une structure. Donc dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Gvura Shebe Chesed. La Gvura, la rigueur, qui est dans le chesed. C'est-à-dire qu'à la base, c'est du chesed, mais on a dû habiller ça avec une structure, avec la gvoura. Pourquoi on parle de tout ça? On a expliqué la semaine dernière que le but de l'Admor HaZaken ici, c'était de parler de la mitzvah de la tzedaka. Que dans la tzedaka, les chachamim ont donné une mesure. Quelle mesure les chachamim ont donné pour la tzedaka?
20%.
Ils ont dit, normalement 10%, maximum 20% ton patrimoine. D'accord?
Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, il y a une structure. Va dépasser la structure.
C'est-à-dire pour les tzadikis.
Ah, attends, justement. Donc je reprends. Donc a priori, tu viens de m'expliquer longuement que la structure est très importante. Et que si on quitte la structure, ça risque de se transformer, chas v'shalom, en catastrophe.
On est hors cadre.
Donc on est d'accord. On est hors piste, comme ils disent. D'accord? C'est bientôt la saison, là.
Il y a des endroits en Autriche où c'est ce qui déjà. Hein,
on va. Le 11 ou le 12 décembre, c'est le début de la saison.
Donc leur piste, c'est dangereux. Ok? Donc on a expliqué que la tzedaka, a priori, les rabbis m'ont donné un chiot. Ils ont donné une mesure. Jusqu'à combien on peut donner? On peut donner de son argent et même de son temps. Ils ont donné une mesure, les chachamim. Ils ont dit, tu vas jusqu'à 20%. C'est-à-dire, par exemple, une personne, tu vas lui donner de son temps, on lui dit, tu donnes jusqu'à 20%. Plus que ça, tu ne donnes pas. Après, tu dois t'occuper de toi. Alors, a priori, on pourrait se dire, alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser les 20%? A priori, oui. Si tu me dis que la structure est très importante à garder, on n'a pas le droit de les dépasser. Et c'est là que l'Admor HaZaken, la semaine dernière, on a juste commencé ça la semaine dernière, il nous a donné un scoop. Il a dit, toute la structure que les Chachamim ont donnée, c'est uniquement pour les tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est tzadik, une personne qui suit la structure dans sa vie, qui est une personne structurée, dans le bien comme dans le mal, c'est-à-dire une personne qui est structurée, une personne comme ça, quand il va devoir donner la tzedaka, on va lui dire, toi, ta tzedaka doit être structurée. Mais, qu'est-ce qu'il a expliqué la semaine dernière? Une personne qui mich et vira la va derrière, dans les mots du Admor HaZaken, c'est-à-dire celui qui a dévié de la route.
Que c'est une belle façon de
voilà,
dire.
Voilà, comme ça il a dit. Mich et vira la va derrière, celui qui a dévié un peu de la route de la Torah. Que cette personne-là, il n'a pas gardé la structure. Mais du coup, dès qu'on lui dit venir donner la tzedaka, il dit, ah non, la tzedaka, il y a la structure.
C'est dans la structure.
Il dit, attends.
Si tu veux qu'on pense.
Quand t'as fait la vera, tu ne l'as pas sorti de la structure. Il y a nos limites pour ta vera. Tout d'un coup, dès qu'on parle de tzedaka, ça y est, il y a une structure. Ah non, ça marche pas comme ça. Alors c'est pour ça qu'il a expliqué la semaine dernière que dans la tzedaka particulièrement, la tzedaka, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on se dépasse, qu'on sort des limites pour permettre à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner quand on est sorti de nos limites également dans le côté spirituel. Donc la tzedaka a un rôle très important pour la teshuvah. Alors, je vous dis ça à l'oral parce qu'on ne va pas le faire dans les mots. Il dit que c'est en fait, c'est ça la différence entre le tzadik et le Baal Teshuvah. La Gemara a dit que l'endroit où le Baal Teshuvah peut arriver, même les tzadikis ne peuvent pas arriver. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Baal Teshuvah, il fait un bond énorme. Il fait un bond, c'est, on peut appeler ça, c'est du hors-piste. Ça veut dire que c'est quelque chose que le tzadik, qui faisait la même chose, il aurait explosé. Le Baal Teshuvah, il fait un bond énorme. Pourquoi on lui donne le droit de le faire? Parce que, on dit que, étant donné que quand il a fait des Averot, il était hors-piste, donc pour contrer un hors-piste, il faut faire un hors-piste de l'autre côté. C'est-à-dire quand tu es parti complètement à gauche, pour récupérer, qu'est-ce que tu dois faire?
Tu vires
complètement à droite. Tu comprends? Quelqu'un qui est tout droit, qui veut commencer à virer à droite, on lui dit, attends doucement, il faut rester au milieu. Mais celui qui était complètement à gauche, lui on lui dit, toi vire à droite, et après la nature s'arrangera pour te mettre au milieu.
Pour revenir dans le droit chemin.
Pour revenir dans le droit chemin, exactement. Ok? Ça c'est ce qu'il a expliqué ici. Maintenant, on va prendre... dans les mots. Alors. Vezeu Shekatouf. Donc on est à la page 230. Donc j'ai sauté quelques lignes. Hein. J'ai sauté quelques lignes parce qu'on va aller directement à la suite du cours. Alors. Excusez-moi. Hein, je prends la page. Je suis à Vezeu Shekatouf. C'est. Pardon, vous prenez 7 lignes avant la fin. De la page 230. Ok. Excusez-moi. Voilà, c'est là. Ok. Il dit, Vézé ou Shekatou. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans le pasouk. Il y a un pasouk qui dit comme ça, hein, dans Michelet, qui dit, Ose tzedaka ou mishpat, nifra le Hashem misbeach. D'accord? Tu as? Non, page 230.
La 230, hein?
Non, c'est juste avant, pas juste avant. On l'a pas juste avant. Voilà. Ah, voilà cette ligne, voilà. Tu as.
Alors pourquoi j'ai 232 là
Non, c'est bon, tu as sauté une page.
Ah oui, non, parce que je comprends. Parce qu'il est numéroté qu'une. Une
sur l'autre. Exactement, ouais.
Ok.
Zé ou Shekatou. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit. Oh, c'est Daka ou Mishpat. Celui qui fait. Tzedaka, la tzedaka ou mishpat et le jugement. Nifrar, le Hashem, misbeach. C'est mieux devant Akadosh Baruch Hu que le misbeach, que l'autel. Qu'est-ce qu'on fait sur le misbeach? On donne des corbanotes, des sacrifices. Et qu'est-ce qu'il dit dans Michelet? Michelet, il dit comme ça, Shlomo Ameler. Il te dit que donner la tzedaka, c'est mieux que donner un, c'est mieux pour Akadosh Baruch Hu que le misbeach, c'est mieux qu'un corban. Comment on comprend ce pasouk? Comment vous comprenez ce pasouk? Hein, Youssef, comment tu comprends ce pasouk? Akadosh Baruch Hu, il te dit, apparemment, donc dans Michelet, il te dit que faire la tzedaka, c'est plus important qu'un sacrifice.
Et les deux ont le même but, venir s'expiatoire.
Voilà,
les
deux. Et non, c'est pas seulement ça, c'est qu'a priori, c'est structuré. Comme le rabbi pose la question, il dit, mais en plus, il dit, les deux n'ont rien à voir.
Non.
La tzedaka, mais ça n'a rien à voir.
Le but est le même, c'est de réparer.
J'ai compris, mais c'est quoi le but d'un corban? C'est d'offrir un sacrifice à Dieu. La tzedaka, c'est aux hommes. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
D'accord. La destination n'est pas...
Donc bon, pourquoi Shlomo Ameler compare? Il te dit que faire une tzedaka pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus important que Nifrar, ça veut dire c'est mieux, c'est plus choisi, c'est mieux, l'Hachem Mizbeach, que d'amener un corban à Akadosh Baruch Hu.
C'est ce que tu viens de dire, justement, parce que c'est vis-à-vis de l'homme.
Ah, ce qu'il explique ici. Préférable. Ouais. D'accord.
Préférable.
Il te dit comme ça. En plus, le rabbi pose la question. Il dit, ça c'est le rabbi qui explique sur le commentaire du Tania. Il dit, on remarque ici qu'il a dit Ose tzedaka ou mishpat. Celui qui fait la tzedaka, c'est quoi mishpat? C'est la justice. Quel rapport entre les deux?
Tzedaka et
justice. J'ai compris. Mais pourquoi la tzedaka t'appelle ici un jugement?
Alors, non, c'est reconnaître finalement que ça vient de Dieu, le principe. C'est que comme ça vient de Dieu, c'est-à-dire que ce qui t'arrive finalement, si tu fais là, tu redonnes à autrui, c'est-à-dire que tu sais que tout vient de Dieu. Donc par là, tu...
Mais tzedaka en hébreu, d'accord, ça veut dire, c'est vrai, ouais, que c'est la justice, mais mishpat, c'est un jugement.
Exact.
Quel rapport avec le jugement ici? Alors le rabbi explique comme ça. Il dit en vérité dans ce pasouk, on est en train de te juxtaposer, d'un côté le korban, qui correspond justement à la avodat Hashem structurée, comme le tout à l'heure on a expliqué, délimité, comme on a expliqué tout à l'heure, que le corban, pour chaque avéra, pour chaque type, t'as un corban spécifique, d'accord, t'as un type, t'as un endroit où tu peux le manger, t'as certaines personnes qui peuvent le manger, t'as une partie tu peux manger, d'autres parties tu peux pas manger, t'as un nombre de jours défini. Et d'un autre côté, tu as la tzedaka. Et quelle tzedaka? La tzedaka qui est mishpat. La tzedaka qui est une sorte de jugement. Ça veut dire que kaviachol, Dieu aurait dû me juger. Et pour éviter le jugement, je vais donner la tzedaka. Pour éviter que Dieu me juge, Dieu me punisse. Tzedaka ou mishpat? Que celui qui fait la tzedaka ou mishpat, dans le cadre d'une, ça veut dire pour se faire pardonner d'une avéra qu'il a fait, nifra, l'Hachem, misbehar, c'est mieux devant Dieu qu'un korban. Regardez comment il va expliquer dans les mots. Les filles. Chez akorbanot, les korbanot, em biprinat, shiur, ou mida, ou gvul. Les korbanot, c'est comme la voix d'Hachem des tzadikim. Les korbanot, c'est limité. C'est mesuré. D'accord? C'est, on peut pas dépasser. Machen ken bitzdaka, alors que dans la tzedaka, chez yuchal, les fazer blikvul, que la tzedaka, on peut diffuser, on peut donner, distribuer autant de tzedaka qu'on veut, blikvul, sans limite, les taken avonotav, pour être metaken, c'est faux. Ça veut dire comme ça. Imaginez une personne qui a, sans faire exprès, il a allumé la lumière Shabbat. On est à l'époque du Beit HaMikdash. Il vient au Beit HaMikdash. Qu'est-ce qu'il doit amener comme korban? Quel korban il doit amener? Comment il s'appelle le korban qu'il doit amener? Khatat. Pour un oubli, c'est khatat. Si maintenant il dit, j'ai envie de donner 5 khatat. Il veut faire, d'accord?
Il
veut faire le riche comme ça. Je veux donner 5 khatat. Est-ce qu'il peut? Il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit?
Parce que c'est structuré.
Alors,
on peut en donner d'avance un petit peu.
Il peut pas. Il n'a pas le droit de donner, il a pas le droit de donner 1 gramme de plus que ce que la Torah a dit.
C'est terme échoir.
Donc, les korbanot, comme il dit ici, c'est shiur, mida ou gvul. C'est-à-dire, il y a une quantité, il y a une mesure et il y a une limite. Tu peux pas dépasser. La Torah a dit un korban, c'est un korban. Que ce soit une petite avéra ou une avéra très grave. Je me suis dit, mais attends, c'est très grave ce que j'ai fait. La Torah t'a dit un korban, c'est un korban, ça changera pas. Alors que la tzedaka, dans la tzedaka, elle te dit, la tzedaka, ça t'a pas de limite. Tu peux donner autant que tu veux. Donc c'est pour ça que Shlomo Melech, il dit dans Michelet, il dit que t'as une qualité dans la tzedaka qu'on n'a pas dans les korbanot. Que dans les korbanot, t'es limité à ce qu'on t'a demandé. Alors que dans la tzedaka, le fait qu'il n'y a pas de structure, finalement, c'est ça notre bienfait, c'est que grâce à ça, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a certaines méthodes dans la Torah, a priori, dans laquelle la Torah te laisse faire un peu ce que tu veux. Je vais illustrer ça avec une histoire. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 20 Cheshvan, c'est le jour anniversaire du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, en Russie, il a beaucoup donné sa vie pour la diffusion de la Torah, l'anniversaire de sa naissance. Et il a il était en prison plusieurs fois d'ailleurs à cause de ça. Vous savez, en Russie, bon, un rabbi de Lubavitch, il doit passer en prison sinon. Donc il était en prison plusieurs fois à cause de ça. Et une fois, son fils, il a un petit peu taquiné son fils qui va devenir plus tard le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Il l'a taquiné un peu. Il a dit papa, tu sais, heureusement que la mitzvah de Messirut Nefesh n'a pas été structurée dans le Shulchan Aruch. Parce que si elle avait été structurée dans le Shulchan Aruch, certainement qu'on aurait dit que des choses que tu fais, tu es parti trop loin. Mais comme elle n'est pas structurée, comme le Shulchan Aruch te dit pas sur quoi faire Messirut Nefesh, donc c'est pour ça que tu peux te permettre de faire Messirut Nefesh sur des choses que on n'aurait jamais pensé qu'il fallait faire Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot dans lesquelles la Torah, elle fait exprès de ne pas donner de limites. Notamment, quel exemple, la mitzvah de la tzedaka, contrairement au korban. Donc si on suit ce qu'on vient d'expliquer ici, a priori, ça voudrait dire que le korban est limité, mais la tzedaka n'est pas limitée. Ok, tout ça c'est très beau. Le problème c'est qu'il y a une gmara qui dit exactement le contraire. Jusqu'ici c'est parfait. On a une construction magnifique, on a expliqué Avodat Hashem des tzadikim, des balet tshuva. Les tzadikim c'est comme le korban, c'est structuré. Ceux qui sont balet tshuva c'est comme la tzedaka, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite.
Bon,
tu n'auras jamais donné assez, d'accord? Et même avec un petit peu, tu peux donner beaucoup.
Bon, ben, enfin, t'as pas fait le rapport entre tzedaka d'homme à homme et de.
Non, c'est pas le but. Le but, c'est simplement. Pourquoi je te mets l'air les agis que t'as posés?
Pourquoi?
Pour te dire que limite et pas limite. Que le korban est limité, la tzedaka n'est pas limitée. C'est pour ça qu'il dit, osé tzedaka ou mishpat, celui qui fait la tzedaka dans un cadre de mishpat, de jugement, ça veut dire qu'il fait ça pour pardonner ses averot, c'est mieux, nifrar, lachem misbear, c'est mieux que de donner un korban, parce que le korban, il est limité. Et des fois, une personne a du mal à sentir que le korban l'a pardonné. Parce qu'il dit, mais attendez, c'est pas assez, je veux donner plus. On lui dit, ça, c'est tout.
Alors, le fait que ce soit la destination l'un pour Dieu et l'autre pour...
Non, il n'y a pas de différence. Les dons, on le fait pour Dieu.
C'est pour... Les dons, on le fait par Dieu. Non,
mais de manière indirecte.
On le fait pour Dieu aussi, c'est ça.
Exactement. Mais ça, cet aspect-là, tu ne le retrouves pas dans le Corban. Que même quand je vais me faire pardonner d'une avéra avec un Corban... J'ai compris. Mais dans le Corban, une personne, par exemple... Ça veut dire que ce soit une personne qui a fait sans faire exprès, qui a allumé la lumière Shabbat, ou que ce soit que sans faire exprès, elle a mangé un morceau de cochon, c'est la même chose, c'est le même korban khatat qu'il amène. Courant ? Peu importe s'il allumait la lumière un jour de Kippour ou s'il allumait la lumière un jour de Shabbat. C'est la même chose. Donc on peut avoir du mal à... Je vais dire, mais attends, mais ça me dérange, je veux donner plus, je veux. D'accord ? C'est un sacrifice standard que tu ne peux pas dépasser. Tu n'as pas le droit de rajouter sur le modèle qu'on t'a donné. C'est pour ça que Shlomo Melech, il te dit qu'une personne qui veut se faire pardonner au sein de tzedaka ou mishpat, pour lui, il ressentira beaucoup plus qu'il a fait quelque chose quand il donne la tzedaka, parce que c'est personnalisé. Là, il sent qu'il va donner quelque chose, alors qu'un korban, c'est pas personnalisé.
C'est pas une façon de dire aussi, pour nous qui aujourd'hui ne sommes pas devant le Beit HaMikdash, qu'il n'y a pas vraiment à regretter.
Finalement, il n'y a pas à regretter, bien sûr. On dit qu'aujourd'hui, notre... Comment il dit là de Morazaken ? Morazaken, dans un autre endroit, il dit comme ça. Il dit qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas offrir les korbanot, qu'est-ce qu'on fait ? On étudie la paracha des korbanot. On lit par exemple le Zehoum et Komel le matin. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara ? La Gemara dit que Kol Haosek Betorat Ola, qui est Ilou écrive Ola. Et tout celui qui étudie les lois du sacrifice, c'est comme si qu'il l'avait fait. On a dit, imaginez, à l'époque du Beit HaMikdash, jamais les gens faisaient autant de korbanot. Jamais. C'est-à-dire qu'une personne standard, s'il faisait un korban par année, quand même Pessah, peut-être 2-3 maximum, c'est énorme. Alors que là, nous, aujourd'hui, par jour, on fait des dizaines de sacrifices. Donc finalement, notre défaut est peut-être notre qualité maintenant. C'est que grâce à ça, du coup, on fait un paquet de...
On fait un paquet de... Korbanot.
Pardon ?
On y perd avec la vie de Mashiach.
Non, on n'y perd pas.
Ah, non, je provoque.
On veut du live.
Mais...
Tu as raison, c'est vrai. C'est vrai?
Mais c'est un petit peu à double tranchant, non, parce que autant c'est facile d'offrir des corbanes aujourd'hui,
oui,
en lisant tout simplement.
Et autant la tzedaka, c'est difficile.
Je pense. Quelque part, tu peux presque t'autoriser à faire plus de avérances. Tu vois ce que je veux dire?
Non, ça, il ne faut pas aller. Non.
Pas t'autoriser, mais en tout cas, tu es plus sensible au fait d'être.
Non, moi j'expliquerai ça d'une autre manière. C'est que comme à Kadosh Baroukh Hou, il sait qu'en Galout, on est plus enclin à faire des avérotes. Donc il nous donne un moyen de se faire pardonner plus rapidement. Parce qu'il sait que bon.
Tu as exprimé un peu mieux.
Ah oui. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a?
La question, elle était de savoir, est-ce que quand Machiav il arrive.
Il y aura toujours les carbonates.
Bien sûr.
Bien sûr.
Il n'y aura plus de
mitzvah,
je croyais.
Bien sûr, il y aura toujours
le
carbonate. Voilà, il y aura toujours le carbonate, le Batamikdash. Le Rambam, il dit clairement, il dit quand ma chère va venir, on va reconstruire le Batamikdash, il y aura les carbonates, il y aura la boucherie au Batamikdash, il y aura tout ce que...
Boucherie Bedin ou...
Non, non, boucherie Verbech.
Ashgacha Mashiach.
Le statut mitzvah.
Non, ça ne sera plus la même chose comme aujourd'hui. C'est plus le même, les mitzvot n'auront plus le même statut comme aujourd'hui, c'est vrai. Il n'y aura plus le même statut de mitzvah et de salaire, de punition, il n'y aura plus tout ça. Mais il y aura toujours un programme.
Il ne peut plus y avoir 613 mitzvot. Puisque les animaux, déjà, ce que je disais, les animaux impurs...
Mais on aura quand même un programme. On aura un programme. La mitzvah sera plus dans le sens du programme.
Il y aura un minimum syndical.
Donc, il te dit, donc a priori, qu'est-ce qu'on a conclu maintenant? On a conclu que c'est parfait. La tzedaka, c'est nos limites, alors que le korban, c'est limité. Donc on a dit, a priori, voilà, on sait où on y tient. Donc je sais que puisque moi je fais d'averot, donc je sais que quand je donne la tzedaka, ben, ça me permet de donner une tzedaka personnalisée et de sentir que j'ai fait un effort. C'est ça, en vérité. Quand j'ai fait une avera, j'ai bifurqué à gauche. Quand je donne la tzedaka, je vais bifurquer à droite. Ok, donc jusqu'ici, a priori, on comprend que la tzedaka, on peut donner comme on veut. Sauf qu'il y a un problème. Il y a une Gemara dans le traité Ktuvot, qu'on va lire tout de suite, qui nous dit exactement le contraire. Qui nous dit que la tzedaka aussi est limitée. Ça va nous poser problème. Dis la Gemara. Vas-y.
Non, on a répondu à cette question dans la dernière fois. En disant que justement, vu qu'on dépasse les limites dans le négatif, on pouvait nous autoriser à les dépasser dans le positif.
J'ai compris, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'on a expliqué que quand la Torah te donne une structure, t'as pas le droit de la dépasser. Mais c'est ça la question que je pose. Dans ce cas-là, pourquoi pour le Corban, j'ai pas le droit de la dépasser, pour la Tzedaka, j'ai le droit?
Non, parce que c'est Kadai, là, tu viens de dire que c'est pas Kadai.
Mais justement, maintenant, on va amener une Gemara qui dit le contraire. Qui te dit que la Tzedaka, elle aussi, est cadrée. Donc c'est une question qu'on va poser.
La question sera plutôt pourquoi est-ce que tu peux dire que c'est pas applicable au korban.
Voilà, non, mais c'est pas ça la question, c'est qu'on va remettre en cause ce qu'on a dit. On va dire, écoute, c'est bien beau ce que tu as dit, mais la tzedaka, il y a une Gemara qui dit clairement qu'elle aussi est cadrée. Alors, dans les mots, Ouma, Shamrou, Rabotenu, Ouma, Shamrou, ce qu'ils ont dit, donc je suis 4 lignes avant la fin de la page 230. Ouma, Shamrou, ce qu'ils ont dit, Oumem Shin, voilà. Ame Vazvez, la Gemara Ktuvot, page 50, c'est écrit, Ame Vazvez, que celui qui gaspille, oui, dès le départ déjà, c'est un terme particulier. Celui qui gaspille la tzedaka, c'est-à-dire celui qui donne plus que ce qu'il en doit, plus qu'un dixième. Al yevazvez yoter mechomesh. Il n'a pas le droit de gaspiller plus qu'un cinquième. Elle est très dure cette Gemara, parce que tu vois, on n'a pas dit celui qui donne, on a dit celui qui gaspille. Dès le départ, ça veut dire on appelle ça du gaspillage.
Donc c'est d'accord, un gaspillage dès le premier pourcent.
Voilà, non. C'est un gaspillage dès que tu as dépassé 10%.
Ah, c'est...
Donc ça veut dire que dès le départ, on considère que tu es déjà hors norme. Et qu'on t'a accordé une marge jusqu'à 20%. On est d'accord ? Mais ça veut dire qu'on voit que c'est limité. C'est limité la tzedaka. Nous, on vient de dire que la tzedaka, c'est pas limité, tout ce que tu veux, tu donnes. La Gemara te dit clairement, elle te dit qu'a priori, il faudrait pas dépasser. Elle te dit, et celui qui gaspille, qui ne dépasse pas plus qu'un cinquième. Pourquoi ? Dit la Gemara à la Gemara, parce qu'il y a eu une époque où les gens donnaient trop de... Il y avait une époque où les gens donnaient trop de tzedaka, et à cause de ça, les gens s'appauvrissaient. Donc, a priori, la Gemara nous dit ici que même la tzedaka aussi est structurée. Donc, ça va à l'encontre de tout ce qu'on expliquait. Donc, ça voudrait dire que la tzedaka, elle aussi, est structurée.
Non, mais ça vient mettre des limites là où on pensait qu'il n'y en avait pas.
Voilà. Donc, a priori, c'est le contraire de ce qu'on a expliqué.
Mais 20%, c'est déjà...
C'est beaucoup, j'ai compris. Mais quelqu'un qui veut dépasser 20%, est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a expliqué pendant de longues minutes qu'au contraire, que la tzedaka, par définition, n'a pas de limite pour permettre qu'une personne, ça soit personnalisé.
Mais on l'a lié à un type de personne.
J'ai compris. Mais ça, la Gemara ne l'a pas dit. La Gemara n'a pas dit.
Non, la Gemara.
La Gemara a dit celui qui gaspille, qui ne gaspille pas plus qu'un cinquième. Alors comment on fait?
L'autre, la différence, c'est que ça peut être quelque chose de ponctuel. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose toujours continu.
Mais quand même, mais on te l'interdit
comme
quand
même. Comme la elle est d'un instant. Peut-être que la tzedaka qui dépasse la limite, elle peut être aussi.
Je comprends ta question, mais c'est ce que Youssef disait. C'est que pourquoi pour les korbanot, j'ai pas le droit de dépasser la structure, alors que pour la tzedaka, j'ai le droit de dépasser. En plus, de ce qu'on a expliqué avant, ça laissait entendre que dans la tzedaka, je peux dépasser où je veux, je peux donner autant que je veux, alors que de la Gemara ici, qu'est-ce qu'on voit? Que celui qui gaspille, il n'a pas le droit de donner plus qu'un cinquième, ça veut dire que c'est limité. Donc il y a un problème.
D'accord.
Dans les mois. Ce que les Chachamim ont dit, je reprends 4 lignes avant la fin. Ah, mais vasvez, que celui qui gaspille. Ah, l'ivasvez, il n'a pas le droit de gaspiller plus qu'un cinquième de ses, donc de ses bénéfices. Ah, inu, davka, bemi, shelochata. La Dmour Azakan te dit, cette Gemara, elle parle de quoi, hein? Elle parle d'une personne qui n'a pas fauté. Oh, ou bien, une personne qui a fauté, mais, chez Tiken Rata, Vesigoufi Vetaniot Karaou, une personne qui a fauté, mais qui a déjà payé pour sa avérante. C'est-à-dire qu'il a déjà fait il a déjà donné la tzedaka, il a déjà fait des jeûnes, il a déjà fait, etc. Comme qu'on expliquait dans la Guérata Tchouma. Que lui, on lui dit, ça y est, t'as payé. Les Taken, quand Yavgamu, il est malin. Celui qui a déjà réparé toute la faute et qu'il est sûr d'avoir réparé, qui est sûr d'avoir réparé une avéra. Bon. Donc là, dans ce cas-là, on lui dit de pas dépasser. Aval, mais, Mish et Tsarich les Taken Nafsho Adain, celui qui doit encore réparer son âme. Bon, c'est vrai que réparer son âme, c'est un terme qui est pas très chez nous, mais bon, c'est la, d'accord? Pshita, c'est évident. De lo graa, refu ata nefesh mirfu ata gouf. C'est un grand chidouche de Mourazakin, parce que ça, la Gemara ne le dit pas. La Gemara ne fait pas cette distinction. La Gemara, dans Traité que tout votre page 50, elle dit pas, ça dépend s'il a fait d'Averot, s'il a pas fait d'Averot. Elle dit, celui qui gaspille, il gaspille pas plus qu'un cinquième. Admour Azaken, t'as pris un chidouche. Je te dis, moi, je t'explique que cette Gemara, de quoi elle parle? Elle parle d'une personne qui a déjà payé pour sa avérote ou d'une personne qui n'a pas fait d'avérote. Mais celui qui a fait d'avérote, cette Gemara ne le concerne pas. Pourquoi? D'où il sort ça, l'Admour Azaken? L'Admour Azaken, il dit, c'est très simple. Mais si je regarde, quand une personne est malade, physiquement, est-ce qu'il y a une mitzvah de la Torah qui lui dit, tu peux dépenser jusqu'à 20% de tes bénéfices pour aller voir un docteur?
Si, la sécurité sociale.
D'accord? Est-ce qu'il y a une mitzvah qui lui dit ça? Pas du tout. Alors, Admour Azaken te dit comme ça. Puisqu'on sait que le dommage qu'on fait quand on fait une avéra est beaucoup plus grave que ce qu'une maladie peut causer à une personne. C'est beaucoup plus grave. Donc, si déjà pour une maladie, on fait un calvachomer, d'accord? Dans la logique de, si déjà pour une maladie, si déjà pour une personne qui est malade physiquement, la Torah ne lui interdit pas et qu'il n'y a pas de limite, il peut dépenser ce qu'il veut. Calvachomer a plus forte raison que pour la santé spirituelle, c'est sûr qu'on peut donner ce qu'on veut. Donc, c'est une preuve. On a un calvachomer, c'est une preuve logique que ce que la Gemara parlait, puisque c'est vrai que la Gemara n'a pas fait distinction, mais nous on a une preuve qu'en vérité, cette Gemara ne concernait uniquement une personne qui n'a pas fait d'avérote. Ou une personne qui a déjà payé.
Est-ce que ça veut dire que dans la même Gemara, on va traiter de celui qui a fait les avérotes?
Non, la Gemara n'a pas fait distinction. La Gemara a dit simplement, elle a parlé...
Alors si, ok, je comprends, mais si... On tire cette conclusion.
C'est ce qu'il dit l'Admour Azaken. Il te dit.
Oui, mais c'est l'Admour Azaken, il tire la conclusion qu'on parlait dans cet endroit-là que de ceux qui.
Pourquoi? Donc, comment il prouve ça? Il a une preuve. Parce que la Gemara te dit quelque chose, mais il faut la comprendre, la Gemara. De quelqu'un elle parle, la Gemara? La Gemara n'a pas dit de quelqu'un elle parlait. On ne sait pas de quoi elle parle. Est-ce qu'elle parle d'une personne qui a fait d'Averot, qui n'a pas fait d'Averot, qui a l'Averot, La Gemara n'a pas parlé. La Gemara a donné un principe. Après, il faut les Chachamim par derrière qui expliquent qu'est-ce que la Gemara voulait dire. Et là, l'Admour Azaken t'explique. Il te dit, tu ne peux pas dire que la Gemara parle en tous les cas, parce que on voit qu'il n'y a aucune halakha qui m'interdit de me mettre tout mon argent pour payer un docteur. Or, une maladie spirituelle, c'est beaucoup plus grave qu'une maladie matérielle. Ça fait beaucoup plus de dommages, parce qu'une maladie matérielle, ça tue une personne dans ce monde-ci. Mais une maladie spirituelle, ça tue une personne dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Donc c'est sûr que la Gemara, là-bas, ne parlait pas d'une personne qui doit payer pour sa avérote, elle parlait d'une personne elle parlait d'un tzaddik qui veut donner plus de tzedaka. Alors lui, on lui dit, écoute, toi, maximum 20%. Vous comprenez la preuve de Morazakel?
On parle que des tzaddik. Dans cette mara, on parle.
Ou d'un tzaddik, ou d'une personne qui a déjà fait teshuva sur sa avérote. Qui sent qu'il a déjà fait teshuva.
Et qui ne peut dépasser.
D'accord? Et que ça y est, bon, bah, il a déjà payé.
C'est pour ce cas-là qu'on parle.
Mais si une personne veut faire teshuva sur une avéra, c'est évident que ouais, c'est
la preuve en est, c'est qu'on voit quand même beaucoup de d'exemples dans la Torah où il dépassait largement la limite de la tzedaka.
Ah, ça, il va expliquer, il va amener une preuve.
C'est ça.
C'est un bon mot, ce que tu dis.
C'est un des... Il était rappelé par son épouse, parce qu'il donnait tout, je ne sais plus c'était quel...
Il va amener une preuve. Ah, on va amener, voilà. D'accord. Aval, donc je reprends dans deux lignes avant la fin. Aval, mais... celui qui doit encore réparer son âme, c'est-à-dire qu'il doit faire un tikkun de son âme. Pshita, c'est évident. Que la santé de l'âme ne peut pas être moins importante que la santé du corps. Donc dans la logique de la Gemara, ça s'appelle un kalvachomer, à plus forte raison. Qui peut le plus, peut le moins. Si déjà, pour quelque chose comme la santé du corps, on peut donner tout notre argent, c'est sûr que pour la santé de l'âme, on peut donner tout notre argent. Il a un mot magnifique ici, regardez la suite qu'il dit. Il dit She'en Kesef Nershav. L'argent ne vaut rien. L'argent ne compte pas. Vechol Asher Laïch Iten.
C'est ce qu'on en fait, il compte.
Vechol Asher Laïch Iten Be'ad Napsho. Tout ce qu'un homme a, il donnera pour son âme, Ktiv. Alors ça, c'est un verset dans Iov. Iov, il dit comme ça. Il dit tout ce qu'un homme a, le donnera pour son âme. Alors là-bas, dans le sens de Iov, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est prêt à donner tout son argent pour qu'on le laisse tranquille, tellement il souffrait. Job, il souffrait tellement. Mais nous, on remarque que pour parler de sa vie, quel terme il employait ici? Nefcho. Nefesh en hébreu, c'est quoi? C'est l'âme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Kol asher ilaish iten be'ad nefcho. Tout ce qui appartient à un homme, il le donnera pour son nefesh. Ça veut dire quoi? On a une preuve ici de Iov, et quand on a une... Donc, c'est pas une preuve, c'est une allusion. Qui nous dit quoi? Que quand une personne veut be'ad nafsho, quand il veut réparer sa nefesh, c'est sûr que si déjà pour la santé physique on aurait donné tout notre argent, à plus forte raison que pour la santé spirituelle, c'est sûr qu'on doit donner tout ce qu'on a. D'accord?
Sauf qu'on ne sait pas dans quel état elle est.
Sauf?
On n'a pas un diagnostic comme pour le corps.
C'est ce qu'on a expliqué, c'est que chacun comme il sent.
Non, je ne parle pas de la tzedaka, je parle de diagnostic de l'année Shabbat.
Justement, ce que je t'expliquais. Oui. Chacun comme il sent sa vérote, comment il se sent. Est-ce qu'il sent qu'on a donné assez, est-ce qu'il sent qu'il n'a pas donné assez? En vérité, on n'a jamais donné assez. Voilà, c'est pour ça comment Eyov a dit. Il a dit un homme donnera tout pour son éphèche. On voit que quand une personne, par exemple, Dieu préserve, est malade, et qu'il va aller chez un docteur, le docteur va dire, bon, voilà, il y a ça. Il donnera tout l'argent qu'il faut pour aller voir un deuxième, un troisième, un quatrième docteur, pour se dire peut-être qu'il y a encore une chance, peut-être qu'il y a encore quelque chose. Pourtant, le docteur a dit, écoutez, monsieur, ça y est, 3, 4 docteurs. Il donnera tout ce qu'il a pour avoir une lueur de chance. Peut-être qu'il trouvera une solution. Kalvachomer a plus forte raison qu'on l'a expliqué la même chose pour la Neshama. Donc ça veut dire que maintenant on comprend que cette Gemara ne parlait pas d'une personne qui doit faire Teshuvah. Et c'est une personne que c'est évident que dans le cadre de la Teshuvah, la Tzedaka n'a aucune limite. D'accord? Maintenant il continue. Il dit, c'est inné. Mida Tresetzo. Cette mida de chesed. Blikvou l'umida. Ce chesed qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire un chesed illimité. À la différence du korban qui lui est limité, le chesed de la tzedaka pour le bateshuva qui lui est blikvou l'umida. Sans mesure et sans limite. Nikret al-shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Il te dit, le Zohar, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué au tout début de l'aide, je ne l'ai pas développé. Le Zohar avait dit que it chesed ve it chesed. Ya chesed et ya chesed. Il y a le chesed de Elohim, il y a le chesed de Adonai. D'accord? Pour dire ce nom, de Yudke Vavke. C'est quoi la différence? C'est très simple. Le chesed de Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est la structure, c'est le monde. Ça, c'est les tzadikim. C'est quoi le chesed de Hachem? Le chesed de Hachem, c'est un chesed qui est illimité. C'est quoi ce chesed-là? C'est le chesed quand on donne la tzedaka. En vérité, un Baal Teshuvah, il ne peut pas se suffire de la structure normale. Parce que ça ne lui suffit pas pour réparer sa vérote. Il lui faut une bombe. Pour tout faire sauter la vérote qu'il a fait. C'est quoi la bombe? Chasdé Hachem. C'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Le chesed de Hachem. C'est quoi Hachem? Que vous m'avez expliqué ici. Chasdé Hachem, qui dit Ktiv, comme c'est écrit dans Tehilim, ve chesed Hachem, me'olam, ve'ad olam. Il y a un verset dans Tehilim, là il donne la référence, dans Tehilim 103, qui dit que le chesed de Dieu, il part du olam jusqu'au olam. Vous remarquez qu'est-ce qu'il dit? Ve chesed ado Naï, le chesed Hachem. Pour te dire quoi? Il y a le chesed classique qui lui est limité, qui reste dans notre monde. Mais le chesed de Hachem, mais olam vient olam, il va d'un monde à l'autre, ça veut dire qu'il transcende les mondes. C'est pour ça que le Baal Teshuvah a besoin de se dépasser, comme ça on va lui permettre d'amener quelque chose qui dépasse le monde. Mais ça, donc là, il explique dans Al-Pi Kabbalah comment ça marche. Qui, Agam, Shekol Israël, Em, Rachmanim, Vekom, Le Chassadim. Bien qu'on sait que Israël, par définition, le peuple juif, sont Rachmanim. Ça veut dire qu'on sait qu'un juif, même si tu lui donnes pas une mesure qu'on va lui donner à Tzedaka, de toutes les façons, par définition,
il est bon.
Il est généreux. Il veut donner. C'est un des simanim du Am Israël, qu'on est généreux. Bram, cependant, Yesh Gvul Umidal Erachame à Adam. Il dit lui, tu sais c'est quoi la différence entre le chesed de Dieu et le chesed de l'homme? Nous, on connaît le chesed. Les meilleures personnes qui peuvent parler du chesed, c'est nous. Le chesed, c'est nous, c'est le Am Israël. Et on dit que, dans le premier chapitre du Tanya, il dit que les goïms, même quand ils font du chesed, ils le font pour eux. Vous savez, il le dit. C'était, vous savez que dans les premières éditions du Tanya, cette ligne-là a été censurée. Il disait que le chesed que les goïms y font, ils le font pour eux, pour leur bénéfice. Quand je dis pour leur bénéfice, ça veut dire
pour en tirer un
bénéfice, longueur. Pour qu'on parle d'eux, etc. Dans la première édition du Tanya, cette ligne était censurée.
C'est des philanthropes, mais on marque leur nom en grand.
Dans la première édition, au lieu d'écrire le chesed que font les Ovdé, on le fait pas pour ça. Les goïms le font que pour ça. D'accord ?
Ouais, là, raison, il faut ça aussi pour...
Bien sûr, mais le Am Israël par définition, ils ont cette notion de donner du chesed, de faire du chesed pour le chesed. Chesed pour le chesed. Donc il te dit, qui est la meilleure personne qui peut parler du chesed? C'est nous, le Am Israël. Mais il te dit, un homme, même si le Am Israël, on sait qu'on est des Rachmanim, on est des Gomel Chassadim, on est Rachmanout, on est des Gomel Chesed, mais le chesed d'un homme est naturellement limité. C'est sûr qu'il sera limité. Alors que le chesed Hachem, le chesed de Dieu, lui, est illimité. Ça veut dire comme ça, Kadosh Baruch Hu, il sait que bien que le Am Israël, nous sommes Rachamanim, mais notre Rachmanout a une limite. Et qu'à un moment, il faut dire stop. À un moment, on va dire stop. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux que moi, je dise pas stop, toi aussi, il faut pas dire stop. Si toi, tu vas te dépasser, tu vas montrer que tu vas chercher quelque chose qui est au-delà de tes limites, au-delà des limites officielles de la Torah, moi aussi, à Kadosh Baruch Hu, au lieu de te donner le Chesed Elohim, je vais te donner le Chesed Hashem, qui est Mer Olam Ve'ad Olam, qui transcende le monde. Vous voyez ce qu'il veut dire ici? C'est-à-dire, on sait qu'un juif, par définition, il est déjà Baal Chesed. Toutes les façons de le Chesed. Pas besoin d'aller chercher. Mais quand un juif va se dépasser, il va se surpasser, ça veut dire que déjà un juif, par définition, il est Baal Chesed. Si moi, je vais montrer que je vais me surpasser, que je vais donner encore plus que mon maximum, alors, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi aussi, je vais me surpasser, moi aussi, je vais te donner un chesed qui transcende le monde. Kiagam, chez Kol Israël, je reprends Kiagam. Kiagam, chez Kol Israël, donc quatrième ligne. Kiagam, chez Kol Israël, em rachmanim, gom le chassadim, bien que le Am Israël, par définition, sont rachmanim, et gom le chassadim, bram, cependant, yesh, kvoul, umida, le rachame, à Adam. Il y a forcément une limite. Combien on peut être miséricordieux? Combien tu peux donner? À un moment, on t'écrase. À un moment, il faut dire stop, ça y est. Combien tu peux donner? La marachami, c'est la miséricorde, la pitié. Pitié, mais à un certain moment, on te dit stop, arrête-toi. L'homme a une limite. Aval Akadosh Baruch Hu, Nikra Einsof Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu est appelé Einsof. Vous savez que le nom le ultime d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Einsof. Einsof, ça veut dire quoi? Traduction littérale de Einsof, ça veut dire quoi? Infini. Einsof, traduction littérale, ça veut dire il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on pourra toujours aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Tu as raison qu'il n'y a pas de début aussi. Pourquoi on ne dit pas qu'il n'y a pas de début? C'est pour illustrer, parce que l'homme... Parce que pour le cerveau de l'homme, pour nous illustrer, parce qu'une personne... Regarde, je t'expliquais. Pour illustrer l'homme... Non, c'est pas une question, non, il a raison. On dit que c'est comme un cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a ni début, ni fin. Pourquoi tu... On dit que Béhémet, pourquoi on dit Ensof? Il y a un niveau qui est encore plus haut dans lequel on dit que même il n'y a même pas de réchit, il n'y a même pas de début. Mais pourquoi on dit Ensof? C'est pour permettre aux hommes de comprendre. Parce que nous, je sais que, par exemple, je vais commencer à courir et je sais que je peux courir pendant une heure. D'accord? On va te dire, il y a un grand coureur, lui va courir 3 heures. Et il y a un très grand coureur, il va courir 5 heures. Mais il y a forcément une fin. Même si on aura un record, il y aura toujours une fin, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un record, et c'est la fin, ça y est, on ne peut plus aller plus loin que ça. Akadosh Baruch Hu, c'est Ensof. C'est que plus tu pousseras la limite, et plus il y aura toujours, Akadosh Baruch Hu te dit, il faut aller encore après ça. Ensof, il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi il te dit que la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Nous, les hommes, Voilà, je m'imagine. Moi, je donne la tzedaka. J'imagine maintenant, quand je m'imagine un grand bal tzedaka, j'imagine, voilà, ce monsieur un tel. Après, tu imagines, mais il y a encore un grand, il y a encore un autre qui est encore plus grand, et encore plus grand, encore plus... mais il y a forcément une limite. Ça s'arrête à un moment. La seule personne sur laquelle on peut dire Ein Sof, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau de Chesed Hashem. Pas Chesed Elohim, Chesed Hashem. Qui est Me'olam Ve'ad Olam. Me'olam Ve'ad Olam, qui transcende le monde. Kedirtiv, ou le Midotav Ein Sof. Les Midot d'Akadosh Baruch Hu n'ont pas de fin. Kedirtiv, comme c'est écrit, Kilo Chalou Rachamav. Que la miséricorde de Dieu ne tarira jamais. Parce que comme on a dit, normalement pour nous il y a toujours une fin. Et même si tu vas prendre, à un moment il faut que ça s'arrête. Toute chose doit se terminer. Mais le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est très fort ce qu'il y a écrit en Tehilim. Lo Chalou Rachamav. Le pasuk qui dit comme ça, il dit Chas de Hashem qui lo tamnu. C'est le Chesed de Hashem que nous ne sommes pas exterminés, que nous sommes toujours là. Kilo Chalou Rachamav, parce que la miséricorde de Dieu ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire que si on est là, c'est grâce à quoi? Grâce à la miséricorde de quoi? De Hachem, de l'infini. Parce qu'en vérité, s'il n'y avait pas la miséricorde de l'infini, on n'aurait jamais pu tenir en galoute. On ne mériterait pas.
Mais Ensof se traduit aussi par éternel.
La traduction littérale de Ensof, c'est infini.
Oui, oui.
D'accord ? C'est l'infini. Mais en vérité, dans la science, on ne sait pas ce que c'est le réel infini. Quand on dit, par exemple, dans la science, qu'une chose est infinie, c'est pas infini, ça veut dire on veut dire qu'on n'a pas trouvé encore la fin, mais on part de la base qu'il y a une fin. On est d'accord? Quand on te dit par exemple en science que on te dit que l'espace est infini, on sait que on l'appelle infini, mais les scientifiques ils te disent qu'en vérité on sait qu'il y a une fin, mais nous la fin on la connaît pas. On est d'accord? C'est-à-dire par définition toute chose a une fin. Il y a une fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute chose, c'est-à-dire que le vrai infini, c'est Akadosh Baruch Hu. Zé ou Shamara Navi. Avec ça, on va comprendre pourquoi le prophète a dit. Achar Achur Banva Galout. Avec ça, on va comprendre pourquoi le prophète a dit après la destruction. C'est le prophète Jérémie. Rappelez-vous ce qu'on avait vu au tout début de la lettre. Qu'est-ce qu'avait dit le prophète Jérémie? Le prophète Jérémie, alors, vous remarquez ici qu'il te dit que c'est un prophète. Pourquoi il précise c'est un prophète? Parce que dans la Torah, il y a des fois des idées qui ont été émises par des rois, par exemple, dans le Nar. Il y a des fois où c'est un prophète. C'est quoi la différence? Quand c'est une idée qui est émise par quelqu'un, on peut questionner. On peut dire, bon, il a dit. On n'est pas d'accord. Mais quand c'est un prophète qui te dit, qui c'est qui parle derrière le prophète? C'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que le Navi a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, Chas de Hashem ki lo tamnu. C'est un recette de Dieu que nous sommes toujours là parce que la miséricorde de Dieu ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire comme ça. On est maintenant après la destruction du Beth Amikdash. Le prophète Jérémie, il s'adresse au peuple. Et il dit, il faut remercier Dieu qu'on est toujours là. Si ce n'était pas un prophète, si c'était un rabbin de communauté qui parlait, on aurait pu dire, bon, c'est une image qu'il a donnée. Il ne faut pas le prendre au mot. D'accord? Il ne faut pas le prendre au mot, lui dire, bon, il a dit le chesed de Dieu, etc. Bon, c'est une image qu'il voulait. Il voulait remercier Dieu à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas le prendre au mot. Il voulait simplement exprimer un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Mais là, qui c'est qui a parlé? C'est un avis, c'est un prophète.
Quand tu citais le cas du Tehilim de roi David, c'était en prophétie aussi alors.
Ah oui. Non mais là maintenant on va revenir à ce que le prophète Jérémie a dit après la destruction du Beth Amikdash. Il a dit que si Akadosh Baruch Hu a fait qu'on n'est pas détruit et qu'il n'y a que le Beth Amikdash qui a été détruit mais que nous sommes toujours en vie, c'est un chesed de Hachem. Si c'était pas un prophète qui avait dit ça, si c'était un rabbin de communauté qui avait dit ça, on aurait dit bon. Il a dit, peut-être qu'il a imagé un petit peu, mais il faut pas le prendre au mot. Mais là c'est un prophète. Et puisque c'est un prophète, il faut le prendre au mot. Donc qu'est-ce qu'il a dit dans ces mots? Il a dit Chas de Hachem qui le tamnu. Si nous sommes toujours là, c'est grâce au chesed de qui? De Hachem. Kilo Chalou Rachama, parce que la miséricorde de Dieu est infinie. C'est-à-dire qu'il faut le prendre au mot. Donc de là, tu dis l'Admor HaZaken, nous aussi, si on veut que le chesed de Hachem continue, nous aussi, on doit se montrer infini. Vous savez, une fois, il y a le Rav Goutnik, qui était, je l'ai raconté une fois, le Rav Goutnik, c'est un Rav en Australie qui a fait, bon, Baruch Hachem, il a eu une grande chance, il a pu se lancer dans les affaires, il est devenu milliardaire. Et une fois, hein, il est passé chez le rabbi au dollar, quand le rabbi distribuait les dollars, il a posé la question au rabbi, il a dit, rabbi, c'est quoi la tzedaka? Parce qu'une personne qui donnait énormément de tzedaka. Bon, aujourd'hui, maintenant, il n'est plus comme avant, sinon je serais parti le voir. Mais il a payé des centaines d'institutions. C'est un Chabad, mais pas que dans le mouvement Chabad, partout, même en Israël, vous voyez plein de goutniks, plein. Alors une fois, quand il est passé au dollar, quand il est passé au dollar chez le rabbi, il a dit, rabbi, c'est quoi la tzedaka? C'est-à-dire, il voulait savoir, c'est quoi, est-ce que je fais assez? Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi? C'est quoi la tzedaka? Le rabbi, il a dit, la tzedaka, c'est quand tu sens que ça commence à te faire mal. Tant que t'es pas arrivé là, c'est pas la tzedaka. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est mamash la définition de l'infini. C'est quoi l'infini? Ça veut dire, on te dit, toi, ce que tu avais dit, ça y est, c'est ma fin. C'est mon record, je peux pas aller plus loin que ça. C'est quoi l'infini? C'est de dire, je montre qu'il y a, c'est pas la fin, je suis infini et je peux aller encore plus loin que ça. C'est ça l'infini. Pour réveiller chez Akadosh Baruch Hu l'aspect infini, dépasser ses limites, montrer l'aspect infini. Pour éveiller l'aspect infini chez Akadosh Baruch Hu, je dois moi aussi montrer l'aspect infini. C'est quoi montrer l'aspect infini? De dire, voilà, je suis parti la dernière fois jusqu'ici, c'était ma fin, F-I-N. Et là, je décide de dépasser ce record. Donc, ça veut dire que je vais exprimer le fait que mon recette est kaviachol infini. Il n'est pas limité à ce record-là. Je ne vais pas aller encore plus loin que ça. Ça, c'est la tzedaka, quand ça commence à faire mal. Ce qui fait mal aujourd'hui ne fera pas mal demain, parce que je suis déjà habitué demain. Donc, demain, il faudra donner forcément encore plus. Et après, demain, il faudra donner encore plus. C'est ça, l'infini. L'infini, ça montre que le record d'hier ne sera pas le record de demain. Demain, il faudra montrer que je peux aller encore plus loin que ça. Ça, c'est l'infini. Pour éveiller l'infini d'Akadosh Baruch Hu, on doit éveiller l'infini qu'il y a chez nous. Vous comprenez le pshat qu'il explique ici? Pour éveiller l'infini chez Akadosh Baruch Hu, je dois montrer que moi aussi, je m'arrête pas à mon record, qui était déjà un grand record. Je vais vous montrer que je vais me dépasser. Ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit, pirouche, ça veut dire, donc je reprends, Vezeu Shamar Anavi, la ligne qui commence par Kedirtiv, juste après le point. Vezeu Shamar Anavi, avec ça, on va comprendre pourquoi le prophète a dit avec nous, Youssef. Acharei Achorban va Galout. Pourquoi le prophète a dit après la destruction et le Galout? Chas de Hashem, Kilotamnu. C'est un reset de Dieu que nous ne sommes pas exterminés. Quel mot il a employé pour dire exterminer? Tamnu. Tamnu, c'est exterminer. Mais le mot Tamnu veut dire aussi Tamim, qui veut dire parfait. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Chas de Hashem, Kilotamnu. Le chesed de Dieu que nous ne sommes pas parfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi on a besoin de faire appel au chesed de Hashem? Kilotamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits.
Donc c'est là où tu poses la virgule.
Voilà. Chas de Hashem. Pourquoi on a besoin du chesed de Hashem? Kilotamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits. Si nous étions parfaits, il n'y avait pas besoin de ça. On aurait pu se débrouiller avec Elohim. Tu comprends comment il contourne? Chas de Hashem, le pshat du pasouk qui te dit Chas de Hashem kilotamnu, ça veut dire on remercie Dieu qu'on ne soit pas exterminé. Mais puisque pour employer le terme exterminé, il employait le terme tamnu, qui veut dire perfection, donc on peut comprendre le pasouk différemment. Pour ajouter encore une valeur ajoutée dans le pasouk.
Car nous n'avons pas.
Voilà, c'est Chas de Hashem. Pourquoi on a besoin de faire appel au chesed de Hashem qui est illimité? Kilotamnu, car nous ne sommes pas parfaits. Et comme on n'est pas parfait, on est obligé de faire appel au chesed de Hachem. Si on était parfait, à quel chesed on aurait pu faire appel au chesed de Elohim? Comme on n'est pas parfait,
qui est limité.
Comme on n'est pas parfait, on est obligé de faire appel au chesed de Hachem. Pirouche, ça veut dire, les filles chez l'otamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits. Sh'en anout mimim ou shlemim blishumchet. Qui peut dire qu'il est parfait? Qui peut dire qu'il n'a pas de faute? Ouvgam ben nefesh ou l'amat elyonim, c'est sûr qu'il nous reste des avérotes. Et même quand on a fait un tikkun, il reste encore. Alken, c'est pour ça, tzrichim anu leitnaheg bechas de Hashem. Si on veut qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous de manière infinie, le chesed Hashem, nous aussi on doit être chesed Hashem. C'est-à-dire, nous aussi on doit être à l'infini. Shem blikvul vetachlit, qui est sans limite et sans fin, sans but. Tachlit en hébreu, c'est un but. Dans la vie, on se pose toujours un but.
C'est une fin.
Ça, je dis, voilà, mon but, c'est d'arriver là. Dans la tzedaka, on ne va pas avoir de but. On a le droit d'avoir un but. C'est-à-dire, voilà, mon but, c'est d'arriver là. C'est un but. C'est très bien d'avoir un but.
Ah oui, ça permet d'avancer.
Ça permet d'avancer. Eh bien, dans la tzedaka, il ne faut pas avoir de but. Pas dans le sens que je ne dois pas avoir de but.
Un objectif.
Dans le sens que je ne dois pas avoir d'objectif fini. Je peux avoir un objectif tout en sachant que demain, je devrais dépasser cet objectif. Et que le surlendemain, je devrais dépasser l'objectif de demain. Ça, c'est le pshat ici qui te dit ici. Blik gvul, comment il a dit ici? Blik gvul vetachlit, sans limite et sans but. Ça veut dire qu'on doit toujours dépasser l'objectif. Et que nous, si on se comporte comme ça, qu'on montre à Kadosh Baruch Hu que dans notre tête d'accord, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de but. Alors là, on va montrer à Kadosh Baruch Hu, qu'aider les horer aleinu rachamim, Vechesed il a, Dieu aussi de son côté, il développera le rachamim et le chesed d'en haut. Pardon, chez où Rav chesed verachamim blikvul vetachlis. On dit après, le Zohar il dit que Akadosh Baruch Hu, dans ce niveau de chesed Hashem, il est Rav chesed. Il est le chesed en nombre. Il s'est un pléonasme, a priori, parce que chesed en hébreu, ça veut dire quoi? C'est la bonté. C'est donc, le chesed en nombre, c'est un pléonasme, tu te répètes. Tu dis non. Ça veut dire quoi le chesed en nombre? Ça veut dire qu'à chaque fois, il dépasse le chesed. Il dépasse le chesed. Il dépasse. C'est ça le Rav chesed. C'est que le chesed que tu as donné aujourd'hui, demain il va le dépasser encore. Et après demain il va le dépasser encore. Ça, Kadosh Baruch Hu me le donne dans quelqu'un, dans lequel moi je me montre que moi aussi je me dépasse. Que Moshe Katoub, comme c'est écrit, Kilo Chalou Rachamav, que les Rachamim de Kadosh Baruch Hu ne sont pas arrêtés. Vezé ou Shamrou Rabotelou Zichonam Livracha. Avec ça, on va comprendre pourquoi les Rachamim ont dit Ein Israël Nigalim Eila Bitzaka. Maintenant, on va comprendre. Il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante, qui dit que le Ham Israël sera libéré seulement par le Sroud de la Tzedaka. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Tzedaka? Pourquoi la Tzedaka? Pourquoi pas par les Tfilin? Pourquoi pas par la Mezouza? Pourquoi pas par la Kashrout? Pourquoi pas par le Shabbat? Parce que dans les autres mitzvot, il n'y a pas ce caractère illimité. Voilà, j'ai mis les Tfilin aujourd'hui. Comment demain je vais dire que je vais me dépasser? C'est très très fin. Je veux dire, bon, demain je vais essayer d'avoir une Kavana un peu mieux. Mais c'est très très fin.
Oui, c'est pas pour
d'accord?
Tu mets deux paires.
Je mets deux paires. Et comment je vais mettre demain trois paires? Tu comprends? Ça veut dire que dans les autres mitzvot, même dans le Shabbat, allez, je fais Shabbat. Ah, bien sûr, on va rajouter un petit peu. On va te dire, bon, tu feras un peu mieux. Mais c'est pas aussi réel que dans la Tzedaka. Dans la Tzedaka, tu le sens. Tu sens quand tu te dépasses.
Mais quand tu viens réfléchir, c'est...
Ça va? Petit café? Fatigué? Ne me dis pas que je t'endors.
Ça se cumule des fois, on ne sait plus.
Donc, dans la Tzedaka, pourquoi on te dit que An Israël n'égale la Tzedaka? Pourquoi on dit que le Ham Israël sera libéré seulement par la Tzedaka? Il y a les autres mitzvot aussi. Parce qu'il n'y a que dans la Tzedaka qu'on retrouve cet aspect qu'on se dépasse. Beaucoup plus que dans les autres mitzvot. L'aspect infini, l'aspect je dépasse mes objectifs. Ça, on le retrouve dans l'argent particulièrement.
Pardon, finalement.
Oui.
Il n'y a pas d'autres mitzvot. Il n'y a pas d'autres mitzvahs qui soient...
Il y en a d'autres, bien sûr, parce qu'en vérité, tout est illimité. Par exemple, le Shabbat, on pourra toujours se dépasser, de mettre un peu plus de kavana, un peu plus. Oui. Mais c'est très fin, très subtil. C'est très subtil.
C'est parce que tout a été déjà cadré.
Voilà, parce que ça y est, je fais déjà Shabbat. Tu comprends? Donc on va rajouter un détail, mais c'est très subtil. C'est pas comme dans la Tzedaka. Quand dans la Tzedaka, tu le sens. Chaque euro que tu as rajouté, c'est pas subtil, c'est un euro que j'ai rajouté.
Finalement, il n'y a que la Tzedaka qui soit libérée.
Exactement. Donc voilà pourquoi on te dit que le Ham Israël sera libéré seulement par quelle route? Par le sroud de la Tzedaka. Parce qu'en vérité, si on suit le Chesed Elohim, on n'a aucune raison d'être libéré de la Galoute. Plus que ça, il n'y a aucune raison pourquoi on est là. Il nous faut le Chesed Hashem. Et pour avoir la Geoula, il faut le Chesed Hashem. Quand plus on montre à Kadosh Baruch qu'on se dépasse, et plus à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il va nous montrer qu'il va Kaviarol se dépasser et nous amener la Geoula, même si on pourrait dire que ça ne correspond pas forcément à nos actions. Shiyasu, Gam Yupturi Medinak. C'est quoi la Tzedaka? Donner la Tzedaka, même si juridiquement parlant, t'as pas besoin de donner. Ça y est, j'ai donné. Des fois, on n'a pas besoin de donner. Alarchiquement parlant, il y a des cas dans lesquels t'as pas besoin de donner la Tzedaka. Ça y est, j'ai donné. J'ai fait ma mitzvah. Quand je monte à Kadosh Baruch Hu, que je dépassais mes objectifs halakhiques, ça veut dire que c'est pas un objectif que je me suis mis dans la tête, un objectif égoïste. C'est un objectif qui était halakhique. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est-à-dire que l'halakha t'a dit par exemple, l'halakha te dit tu peux aller jusqu'à combien? 20%. Donc c'est un objectif, pas un objectif égoïste, c'est un objectif halakhique. Quand je montre à Kadosh Baruch Hu que je dépasse l'objectif halakhique, à Kadosh Baruch Hu il dit, puisque toi t'as démontré que tu as dépassé un objectif qui était noble, qui était juste, qui était kasher, tu l'as quand même dépassé, moi aussi, je vais te montrer que je vais dépasser mes objectifs kavirol pour la Geoula, que même si vous n'êtes peut-être pas méritant tout de suite, je vous la donne quand même. Ça, c'est le pchat. D'accord?
À 21%, c'est bingo, quoi.
À 20?
À 21%,
non,
c'est
non, c'est pas limité. Ça te donnait une limite. Attends.
J'ai donné, mais j'ai dépassé les 20.
1% plus 1%.
Il faut toujours... Donc, tu vas donner 21, et demain, ça sera 22.
Oui, j'ai compris.
Après 100, après 101.
Quand tu as conscience que tu as déjà dépassé déjà 20, tu es dans quelque chose d'exceptionnel.
Exactement. Mais le problème, c'est qu'après, tu t'es habitué.
Oui.
Bien sûr.
Donc c'est vrai, que t'as dépassé, l'objectif halakhique, mais t'as pas dépassé ton objectif. Il faut toujours dépasser ses objectifs.
Mais tout record, puisque c'était un record.
Ton record doit être battu. Voilà, c'est clair.
Il n'y avait pas des exemples où ce qui gagnait comme Parnassa, il prenait ce qu'ils avaient juste minimum nécessaire, tout le reste, ils le donnaient la journée. Parce qu'au lendemain, ils ne savaient pas quel était leur Parnassa.
Bien sûr.
Et on comptait le lendemain pour une autre Parnassa. Ça, c'est là, il faut avoir vraiment le.
C'est pas la émouna, c'est une émouna sans limite.
Ah, ouais. Ça, c'est, ouais. C'est double objectif parce que tu fais deux choses là.
Ouais. Alors maintenant, regardez ce qu'il va dire ici. Il va dire
que. On est payé au mois, donc on est différent.
Quelle confiance.
Ouais.
Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur les mots de la fin là, parce que vous allez voir, c'est magnifique. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit comme ça. La Gemara a dit que En ben David ba, Mashiach ne viendra pas, Ach tichle pruta minakis. Tant que quand Mashiach viendra, il y aura plus de pièces dans les poches.
Ce sera fauché.
Alors, il y en a qui disent, ça veut dire qu'il y aura des billets. Le marché dit.
Où
marché dit ça. Non, mais attendez. Regardez comment va expliquer Admon Razaken. Admon Razaken te dit, pourquoi la Gemara te dit que ma chère viendra quand tu n'auras plus de pièces dans les poches? Si les gens donnent la Tzedaka normalement.
Il y
aura toujours de l'argent dans les poches.
Ça passe de poche en poche.
D'accord? Il y aura toujours de l'argent dans les poches. Ouais, ouais. Non, ça veut dire que si une personne donne la Tzedaka normalement, 20%, donc il restera toujours de l'argent dans les poches. Qu'est-ce que veut illustrer la Gemara quand elle te dit que pour que ma chère vienne, il faut qu'il n'y ait plus d'argent dans les poches? Ça veut dire que tu dois tout donner. Alors, vous avez remarqué qu'il n'a pas voulu. Maintenant, on va lire dans les mots. Qui En ben David ba roulé. Mashiach ne viendra pas, etc. C'est quoi le etc. Jusqu'à qu'il n'y aura plus d'argent dans les poches. Pourquoi il ne veut pas le dire? Pourquoi il le met etc. Parce qu'il n'a pas envie d'exprimer. Il n'a pas envie d'écrire ça, parce que ça nous fait de la peine de dire ça, de dire que quand Mashiach va venir, on sera pauvre. Mais le rabbi dit qu'en vérité, on peut expliquer que pour que Mashiach arrive, il ne faut pas forcément qu'on atteint une pauvreté matérielle. Ça peut être aussi une pauvreté spirituelle. C'est quoi la pauvreté spirituelle? C'est qu'on se sente vide. On se sent pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une personne, il sent qu'il lui manque, il sent qu'il est en manque. Et ça, il te dit que Mashiach, quand il vient, pour que Mashiach vienne, il faut qu'on sente qu'on a un manque. D'accord? Il faut qu'on sente qu'on a un manque, il faut qu'on sente qu'il manque quelque chose. Pour illustrer ça, puisque je dis qu'aujourd'hui c'était le jour de la Iloula, le jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, je vais vous amener un commentaire du Rabbi Rachab sur la Haftara qu'on a lue dans la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, l'Haftara de Vayera, on raconte qu'il y a une femme qui était mariée avec un prophète apprenti, entre guillemets, ça veut dire quelqu'un qui était dans l'école de Elisha. Son mari est mort. D'accord? Son mari est mort. Donc il est venu, la femme, elle avait deux enfants, beaucoup de dettes, elle avait rien à la maison. D'accord? Elle est venue voir Elisha et elle lui a dit, mon mari est mort, ton esclave, mon mari est mort et il ne me reste plus rien à la maison. Qu'est-ce que lui répond Elisha? Donc elle lui dit, et le créancier veut prendre mes deux enfants. Qu'est-ce que lui répond Elisha? Elisha lui répond, lui dit, qu'est-ce qui te reste à la maison? Elle répond, elle dit, à la maison, il me reste seulement un fond d'huile. Alors elle lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit Elisha? Il lui dit, va emprunter un maximum d'ustensiles à tes voisines, et Kelim Rekim Altamiti, cherche un maximum d'ustensiles vides. Et il lui dit, après, toi avec tes enfants, donc tu vas prendre ce fond et tu vas le remplir, avec ça tu vas remplir les autres miraculeusement, et toi et tes enfants, vous vivrez avec ce qui restera. Ça, c'est l'histoire. Une histoire qui est dans l'Haftara, qu'on peut lire dans l'Haftara. Maintenant, regardez comment
on vend dans l'huile.
Regardez comment le Rabbi Rachab explique. D'accord?
Au créancier, elle donne l'huile.
Elle va vendre l'huile. Ça, c'est l'histoire de l'Haftara. L'Haftara par Shad Vayera. L'Haftara qu'on a lu cette semaine. On a lu le Shabbat dernier. Regardez maintenant comment le Rabbi Rachab explique cette histoire. Dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il dit comme ça. Il dit, on dit Isha Achat, une femme. Il va expliquer à l'Pikabala. Il dit, c'est quoi la femme? La femme, c'est la Neshama. Parce que pourquoi? Parce que dans Isha Achat, d'accord, Isha c'est la Neshama. On sait que la Neshama est toujours comparée à Kadosh Baruch Hu, comparée à l'homme. Et la femme, c'est qui? C'est l'assemblée d'Israël. Isha Achat, on a une femme. Mineshe bina Nevi'im, d'accord, donc c'est une Neshama qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Tsaraka el Elisha. Elle crie au prophète qui s'appelle comment? Elisha. C'est quoi Elisha? J'entends Yosef. Elisha, si on découpe le mot en dos, ça nous donne quoi? Eli, mon Dieu, Sha, sauve-moi. Ça veut dire que la Neshama, pendant la nuit, quand nous on s'endort, la Neshama monte chez Akadosh Baruch Hu. Chaque nuit, elle crie à Dieu, elle dit, Dieu, j'en peux plus dans ce corps, sauve-moi. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Avdecha Ishi Met. ton esclave, ton serviteur, mon mari est mort. C'est quoi Ishi? Ishi, c'est les mêmes lettres dit là-bas que Esh Yud. Le feu du Yud, le feu de la Neshama. Ça veut dire qu'en vérité, la Neshama, quand elle monte en haut dans la nuit chez Akadosh Baruch Hu, elle se plaint à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, oui, c'est vrai que peut-être je fais les mitzvot, mais j'ai plus le Esh du Yud, j'ai plus le feu du Yud, j'ai plus l'entrain dans ce que je fais. Je suis plus motivé. Et le créancier veut prendre mes deux enfants en tant qu'esclaves. C'est qui le créancier? C'est Yetzarara. C'est qui les deux enfants? L'amour et la crainte. Normalement, l'amour et la crainte doivent nous aider à aimer et à craindre qui? Quels sont mes centres d'intérêt? Dieu. Aimer Dieu, craindre Dieu. Le Yetzarara, qu'est-ce qu'il fait progressivement? Il fait qu'on fait les mitzvot, mais de quoi, qu'est-ce qu'on aime et de quoi on a peur? D'autres choses. Il va s'arranger pour que les centres d'intérêt vont être déplacés.
Donc il va nous enlever l'amour et
la crainte. L'amour et la crainte. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'a dit la Neshama? La Neshama, elle dit à Kadosh Baruch Hu, elle dit, le Esh du Yud, mon mari, Ishi, mon mari, c'est-à-dire le Esh du Yud, il est mort. Et le créancier, c'est le Yetzarara. Pourquoi le Yetzarara, il est appelé créancier? Parce qu'il veut me faire oublier à Kadosh Baruch Hu, Noshe Milashan Nashani, celui qui veut me faire oublier à Kadosh Baruch Hu. Je vous mets rapidement, hein.
Ah ouais, c'est bon.
Et il veut me prendre l'amour et la crainte. Donc voilà ce que dit la Neshama à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que lui répond Elisha? Elisha, c'est à Kadosh Baruch Hu.
Qu'est-ce que tu
veux? Il lui répond, il lui dit, qu'est-ce qui te reste à la maison? Ça veut dire, qu'est-ce qui te reste de ta Neshama maintenant? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, il me reste un fond d'huile. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est l'essence. L'essence de la Neshama. C'est la Neshama qui répond à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute, à la surface, il ne reste plus rien. Par contre, il reste un fond d'huile. L'essence de la Neshama. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu vas chercher un maximum d'ustensiles vides. Comment il explique là-bas le Rabbi? Il dit, ça veut dire quoi les ustensiles vides? Il faut que tu réalises que tu es vide. C'est facile de se plaindre, mais est-ce que tu réalises vraiment que tu es vide? Réaliser que tu es vide, c'est déjà la solution. Kelim rekim altam iti. Cherche un maximum d'ustensiles vides. Et quand tu vas chercher un maximum d'ustensiles vides, c'est-à-dire que tu vas réellement réaliser à quel point tu es vide, tu es pauvre, comme ce qu'on dit ici, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu verras que la bracha viendra. La bracha démarre dans le fait qu'il faut que tu réalises que tu es vide. Ça, c'est la réponse à Kadosh Baruch Hu, la Neshama. Ben, c'est exactement ce qu'on dit ici. Que pour que ma chair vienne, physiquement, on a dit, il faut que vider ses poches. Vider ses poches, ça veut dire quoi? C'est que quand ma chair viendra, on n'aura plus rien dans les poches. Pourquoi on n'aura plus rien dans les poches? Parce qu'on aura tout donné. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on sera pauvre physiquement. Ça peut vouloir dire aussi qu'on est pauvre spirituellement. Et pauvre spirituellement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Chas V'Shalom ne fera pas les mitzvot. Ça veut dire que plus on va avancer spirituellement, et plus on sentira qu'on est en manque. Exactement la même idée qu'on a dit. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la même manière qu'on a dit que pour la tzedaka, il faut toujours aller vers l'infini, et ce qui est l'objectif d'hier, je dois le dépasser aujourd'hui, etc. Il te dit, le rabbi, c'est la même chose spirituellement. Que l'objectif que j'avais hier spirituellement, ça doit être un autre objectif. Ça veut dire que finalement, je me sens toujours pauvre. Je me sens toujours... Baal Teshuvah, je me sens toujours loin de Dieu. Pourtant, j'ai fait du chemin. Mais le fait que je me sens toujours en manque, c'est une preuve que je me dépasse toujours. C'est ça ce qui va venir, Mashiach. Quand on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on se dépasse dans la Tzedaka, quand on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on se dépasse dans notre Teshuvah, et que le niveau d'hier, je le dépasse aujourd'hui, je montre à Kadosh Baruch Hu que je dépasse même mes objectifs halachiques, que halachiquement, on t'a dit, ça y est, Baruch Hashem, c'est bien ce que tu fais. Ça y est. C'est en vitesse de croisière. Je dis non, je ne suis pas en vitesse de croisière, je vais aller encore plus vite. Je vais dépasser.
Y a pas de retrait.
Quand je montre à Kadosh Baruch Hu que je dépasse mes objectifs, alors à Kadosh Baruch Hu, toi tu as dépassé tes objectifs. Tu as fait ce que tu n'étais pas obligé à le pied à l'acha. Tu as dépassé tes objectifs financièrement parlant et spirituellement parlant. Moi aussi je vais dépasser mes objectifs, moi aussi je vais t'amener ma chère. Voilà comment on peut expliquer. Donc voilà comment on peut répondre à notre question. Donc, jusqu'où on doit aller pour la Tzedaka? C'est quoi la réponse? Nos limites. Tzedaka matériel et même tzedaka spirituel. Dans notre teshuvah, il faut toujours se sentir pauvre. Et on te dit que Mashiach ne viendra pas tant qu'on ne sera pas pauvre. Pauvre physiquement, ça malheureusement c'est en train d'arriver, d'accord, avec les crises. C'est-à-dire que l'argent n'aura plus de valeur, comme dit la Gemara là-bas. Mais le Rabbi dit qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. On peut se rendre quitte de ça par pauvre spirituellement. Et si une personne se sent pauvre spirituellement, Akadosh Baruch Hu peut le rendre quitte d'être pauvre matériellement. D'accord? Donc espérons que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu fasse qu'on va réaliser qu'on est vide, et que Bezrat Hashem, grâce à ça, Akadosh Baruch Hu lui aussi va se dépasser et va nous donner ma chère très rapidement. Voilà pour la lettre 10. Donc on se retrouve Bezrat Hashem dans deux semaines. Et dédié pour la Refoua Shelema de Shmuel Ben Sarah Asuel.